Introduction à l'étude de la prophétie par Marc Tapernoum. Ce livre se décompose en plusieurs parties. Il y a d'abord un avant-propos, ensuite une introduction, suivie ensuite de 5 parties, et enfin se termine par une conclusion. Avant-propos. De tout temps, la jeunesse, élevée selon les enseignements de la parole de Dieu, a témoigné un intérêt particulier à l'égard de la prophétie. Aujourd'hui, où nous assistons à divers événements qui sont autant de signes précurseurs du retour imminent du Seigneur, l'intérêt de cette jeunesse pour la vérité prophétique ne fait que croître. Certes, une simple curiosité ne suffit pas. Mais il faut que le Saint-Esprit produise en nous un réel désir de mieux sonder la pensée de Dieu, telle qu'elle nous a été révélée dans sa sainte parole, au sujet de l'avenir des rachetés du Seigneur et des jugements qui atteindront les incrédules. Conscient du sérieux de l'heure et de la nécessité de se conduire comme des serviteurs qui attendent leur maître, Luc 12, verset 36, plusieurs jeunes souhaitent vivement en apprendre davantage sur la prophétie.
Luc 12, verset 36. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt.
C'est ce vœu que nous essaierons de combler par le présent travail. De fait, les précieux écrits de nos devanciers relatifs à la prophétie demeurent presque toujours inaccessibles à nos enfants, jusqu'au jour où, l'âge venu, ils possèdent la maturité spirituelle et intellectuelle nécessaire pour comprendre les vérités qui y sont exposées. Lacune d'autant plus regrettable que nous autres parents sommes parfois incapables de répondre avec clarté et sûreté aux questions que nous posent ces adolescents. Pour toutes ces raisons, nous avons eu à cœur d'exposer, d'une manière aussi simple que possible, les vérités relatives à l'avenir de l'Église, du peuple d'Israël et du monde. Il va de soi que ce travail ne prétend à aucune originalité, mais s'inspire des nombreux écrits que nous ont laissés nos anciens frères, ces conducteurs dont nous sommes exhortés à imiter la foi, en considérant l'issue de leur conduite. Hébreux 13, verset 7.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi.
Obligés d'adapter notre exposé à la compréhension de nos jeunes lecteurs, nous ne pourrons donner qu'une esquisse des prophéties bibliques dont nous aborderons l'examen. C'est pourquoi nous avons intitulé ce travail Introduction à l'étude de la prophétie, et nous ne serions trop engagés nos lecteurs à parfaire leurs connaissances en lisant aussi, dès qu'ils le pourront, les précieux écrits dont il est question ci-dessus. Ils y découvriront maintes pépites qui donneront toujours plus de prise à la vérité pour leur cœur. Si nous abordons dans un esprit humble l'étude de ces révélations, notre amour pour le Seigneur abondera de plus en plus en connaissance et toute intelligence, et nous discernerons les choses excellentes, étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, verset 9 à 11.
Et je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas, jusqu'au jour de Christ, étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu.
Introduction. Première partie. Pourquoi devons-nous étudier la prophétie? La prophétie occupe une place considérable dans la parole de Dieu. Sur les 39 livres de l'Ancien Testament, 17 sont des livres prophétiques, et presque tous les autres contiennent un grand nombre de passages concernant la prophétie. Le Nouveau Testament a également de très nombreux fragments prophétiques, aussi bien dans les Évangiles que dans les Épîtres, et il se termine par l'Apocalypse, qui est consacrée tout entière à la prophétie. C'est dire l'importance de la parole prophétique et combien il est nécessaire que nous y portions attention. En effet,
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. De Timothée 3, versets 16 et 17.
Nous sommes aussi exhortés à être attentifs à la parole prophétique,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. De Pierre 1, verset 19.
Gardons-nous donc de négliger l'étude de la prophétie. Au contraire, puisque Dieu nous a révélé ses desseins quant à l'avenir de son peuple céleste, l'Église, et de son peuple terrestre, Israël, ainsi que du monde, les nations, nous considérerons comme un devoir et un privilège de sonder les Écritures où ces plans divins sont consignés. Nous en retirerons une riche bénédiction pour notre âme, car le grand sujet de la prophétie, c'est Christ lui-même, dont Dieu nous entretient tout au long de sa parole. Pierre déclare que l'Esprit de Christ était dans les prophètes et les a poussés à rendre,
par avance, témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. 1 Pierre 1, verset 11.
Comment pourrions-nous demeurer indifférents au récit des manifestations futures de la puissance que Dieu déploiera quand il enverra son Fils pour juger ses ennemis et établir son règne glorieux? Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux que la perspective du retour de celui qui a donné sa vie pour eux et a promis qu'il viendrait les chercher bientôt, afin qu'ils soient pour toujours avec lui. Ce retour marquera non seulement la fin des épreuves qui sont le lot de chaque enfant de Dieu sur cette terre, mais il sera surtout le moment où nous verrons enfin le roi dans sa beauté. Transformés à son image, revêtus de corps glorieux, semblables aux siens et unis à tous les bienheureux rachetés, nous célébrerons les louanges de Dieu avec une allégresse inexprimable au langage humain actuel. Puis, après les noces de l'agneau, nous régnerons avec lui,
quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. De Thessaloniciens 1, verset 10.
Cette espérance est bien propre à réjouir nos cœurs et à les détacher des choses de cette terre pour nous faire attendre avec toujours plus de réalité
la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Hébreux 11, verset 10.
L'étude de la prophétie a donc une valeur pratique pour le croyant, car elle l'amène à se séparer du monde, à lever les yeux en haut, et à s'écrier avec tous ceux qui l'attendent,
Amen, viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 20.
De plus, la parole contient de précieuses promesses à l'adresse de ceux qui ont à cœur de méditer la prophétie avec le secours du Saint-Esprit. Il nous est dit, en effet, en Apocalypse 1, verset 3,
Bienheureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Et, en Apocalypse 22, verset 7,
Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.
Le Seigneur lui-même, s'adressant à ses disciples, déclare,
Bienheureux sont ces esclaves que le Maître, quand il viendra, trouvera veillant. Luc 12, verset 37.
Enfin, l'apôtre Paul, arrivé au terme de sa carrière, s'écrit dans la dernière lettre qu'il écrivit avant de subir le martyre,
« Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition, de Timothée 4, versets 6 à 8.
Ne voudrions-nous pas connaître le bonheur dont ces passages nous parlent et recevoir la couronne de justice promise à tous ceux qui attendent finalement le Seigneur? Deuxième partie, comment devons-nous étudier la prophétie? Au moment d'aborder l'étude des révélations que Dieu nous a faites quant à l'avenir de son peuple et des nations, nous devons nous pénétrer de la nécessité d'être conduits et instruits par le Saint-Esprit. Cette condition est d'ailleurs valable pour l'étude de toute vérité biblique. Seul le Saint-Esprit peut nous faire comprendre les Écritures et rendre cette étude profitable pour nos âmes. C'est ainsi seulement que nous serons gardés des spéculations de l'esprit humain. Puisque Christ est au centre de la prophétie, c'est lui que nous nous efforcerons toujours de découvrir et de considérer. La contemplation de sa glorieuse personne sera le plus sûr moyen de nous préserver d'une vaine curiosité. L'apôtre Pierre déclare qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même ou n'est d'une interprétation particulière. 2 Pierre 1, verset 20.
Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même.
Cela signifie que, lorsqu'on étudie la prophétie, on doit se garder de l'isoler de l'ensemble des pensées de Dieu qui se rapportent toutes à Christ. La prophétie fait donc partie de ce tout magnifique qui est la parole de Dieu. Aussi, pour comprendre la pensée de Dieu sur un point particulier, devrons-nous toujours relier celui-ci au passage traitant du même sujet, de manière à bien saisir la vérité fondamentale que l'Esprit désire nous communiquer. Cela nous amènera à examiner le développement de cette vérité dans les livres de la parole qui la mentionnent, peut-être à des points de vue divers, mais non contradictoires. Rappelons, à ce propos, l'image si juste à laquelle on a recouru pour expliquer les différences que l'on peut constater entre les prophéties de l'Ancien Testament, des Évangiles, des Épîtres et de l'Apocalypse. Ceux qui habitent un pays montagneux ont souvent remarqué que, vu de loin, deux sommets paraissent appartenir à une seule et même chaîne de montagnes. Lorsqu'on s'en approche, on s'aperçoit qu'ils sont séparés par une profonde vallée et éloignés de plusieurs kilomètres l'un de l'autre. Si l'on s'avance davantage, on découvre d'autres reliefs plus différenciés encore, dont on ne pouvait soupçonner l'existence lorsqu'on était au pied de la première chaîne. De même, les prophètes de l'Ancien Testament nous présentent souvent la vérité prophétique sans faire ressortir les différents plans successifs qui la composent, tandis que le Nouveau Testament mettra en lumière les multiples perspectives. C'est toujours le même panorama, mais vu de plus près, ce qui permet d'en mieux distinguer les éléments tout d'abord confondus. Cela explique aussi la difficulté que nous éprouvons parfois à établir l'ordre chronologique de certains faits prophétiques. Au reste, il faut nous souvenir que la parole prophétique est
une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans nos cœurs, de Pierre 1, verset 19.
Cette lampe éclairant la nuit nous donne juste la clarté qui nous est nécessaire, mais ce n'est pas encore le soleil qui dissipe entièrement l'obscurité. Il est des choses révélées que nous ne pouvons expliquer. Nous prophétisons en partie parce que nous connaissons en partie, 1 Corinthiens 13, verset 9.
Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
Mais bientôt, la lumière se fera en nous, surtout, et
ce qui est en partie aura sa fin.
Alors nous connaîtrons à fond, comme aussi nous avons été connus, verset 12. En attendant ce jour glorieux, contentons-nous de méditer humblement ce que Dieu a bien voulu, dans sa grâce, nous révéler de ses desseins merveilleux, et demandons-lui le secours de son esprit,
qui sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10.